102.1.
Marceau. Le matin.
Merci d'être présent, les amis. Vous êtes sur Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Marceau. Son nom, lui, c'est Jeff Horton. T'es avec vous jusqu'à 10h. À partir de 10h, ce sera Mme Pascale Caron-Vézina qui sera en remplacement de Max Larouche, qui est dans un concours de karaoké en Ontario, plus précisément à Ottawa.
Exactement. Il va être de retour à Québec, sûrement avec le trophée.
Non, j'ai eu des nouvelles de ça. Il y avait 15 candidats pour devenir le king du karaoké à Ottawa. Il aurait terminé 15e.
Ah, ça m'étonne.
Puis je le sais que ça l'a surpris, là, mais il n'y a pas de médaille pour le 15e.
Non!
Non, c'est la première personne.
En Ontario, ils ne sont pas comme au Québec. Hein, ils ne donnent pas des médailles de participation à tout le monde.
Il n'y en a pas eu. T'as bien insulté.
Ils sont durs. Doug Ford est dur.
Oui, Doug Ford est très, très dur. Ouais. Donc, Max Larouche qui n'est pas là. Pascal sera là à 10h. À midi, ce sera le chum Jeff Fortin qui reprend le contrôle des ondes pour On en jase avec Pascal et Antonine Iaccarini. Et on aura aussi à 14h Denis et toute son équipe, Véro Audrey, qui seront là pour vous parler du budget qui sort aujourd'hui.
En plein
Jeff.
Ça.
Budget provincial.
Mais Denis nous a fait un petit cadeau ce matin, il était là, mais cet après-midi, il est absent. Donc, c'est Antonine Iaccarini qui sera avec Audrey Pinchot et Véronique Bergeron.
Dans le retour. Donc, Puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h ce soir pour un autre podcast de Marceau le soir. Actuellement, sur Québec, c'est moins 15 avec le refroidissement éolien. Je vais juste vérifier si ça s'est réchauffé. c'est quelqu'un qui a oublié de mettre une bûche dans le poêle.
Ah ouais?
Moins 24, une température ressentie à Québec si vous êtes au grand vent. Pour aujourd'hui, c'est du soleil avec un maximum de moins 7 degrés. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux avec un minimum de moins 10. Demain, jeudi, des nuages, peut-être de la neige, c'est ce qu'on nous mentionne en après-midi, avec un maximum de zéro. Pour ce qui est de vendredi, ce sera des passages nuageux avec 70% de probabilité d'averse de neige ou encore de pluie, maximum de plus 2. Samedi, des nuages maximum de plus 1. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil-nuage avec un 30% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 1. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Hier, il y avait un article d'Éloïse Archambault dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui nous parlait du CUSUM. Je ne sais pas si... on a parlé de ce sujet.
On en a parlé en fin d'émission, là, avec la pluie qui tombe aux soins intensifs. Fait qu'on est obligé de les mettre dans le corridor.
Au Centre universitaire de santé McGill, donc au CUSUM, c'est un asile total. Il y a de l'infiltration d'eau. Les patients qui sont supposés d'être en attente aux soins intensifs et soignés aux soins intensifs, bien là, on les déplace des soins intensifs puis on les met dans les corridors. Parce que dans les corridors, il n'y aurait pas d'eau qui coule du plafond. Des tuyaux de construction aussi dans des chambres. C'est un hôpital qui est quand même assez magané de ce qu'on comprend. Et pour le déménagement uniquement de cette section-là, on parle d'un coût estimé à peu près 1 milliard de dollars. Construire un nouvel hôpital, ce serait un genre de 5 milliards, de ce qu'on a compris hier. Mais juste pour déménager ce secteur-là, c'est 1 milliard de dollars. On a l'impression que tout s'écroule de partout. Puis dans un article du mois de janvier, on parlait du déficit de maintien des actifs, des infrastructures. Donc, du déficit des infrastructures au niveau du maintien. C'est uniquement le gouvernement du Québec. On dit que pour réparer tout ce qu'il y a à réparer présentement, là, ça pourrait coûter 40 milliards. Ça a doublé depuis 2018.
Aïe.
Et les infrastructures d'eau, tu sais, ils nous font beaucoup la morale et avec raison sur l'utilisation de l'eau potable. Les infrastructures d'eau, ça coule de partout et ça relève des municipalités. Et ça, dans ce cas-là, il faudrait investir près de 45 milliards de dollars.
Incroyable, juste pour la gestion de l'eau.
C'est effectivement, on a le plaisir d'en jaser avec Sophie Larivière-Manta, qui est présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Madame Larivière-Manta, bon matin.
Ben oui, bon matin, vous aussi.
Merci d'être là. C'est tout un job que vous avez présentement, là, quand vous regardez ça. Vous ne manquerez jamais de travail au Québec. Il y aura toujours des choses à réparer puis à bâtir.
Oui, puis nous, on s'intéresse particulièrement à cet enjeu-là parce que notre mission à l'Ordre des ingénieurs, c'est la protection du public. Puis on considère qu'avec le niveau de maintien actif dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est beaucoup trop élevé. On le voit dans les médias, on l'a vu, l'eau rentre dans les hôpitaux. On a vu des nids de poules, on a vu des trous dans des ponts, on a vu plein de choses. C'est des images déficit de maintien de nos infrastructures actuelles.
C'est quoi les responsabilités des ingénieurs qui sont au gouvernement, tiens, provincial? Eux, quand ils lèvent un flag, est-ce que les politiciens qui n'ont aucune connaissance en ingénierie pour la plupart, est-ce que les politiciens sont forcés de les écouter ou ils peuvent vous tourner le dos tout simplement?
J'ai pas d'exemple précis pour la question que vous posez. Par contre, on a fait un sondage à nos membres où il y a plus de 2300 ingénieurs qui ont répondu. Dans l'ensemble des ingénieurs, il y a 34 % d'entre eux qui ont dit « Nous, on a déjà fait des recommandations techniques, par exemple sur des infrastructures, et les recommandations ont été mises de côté au profit de projets plus visibles. » C'est un des exemples qu'on avait eu notamment.
Donc, il y a de l'intervention politique au travers vos recommandations.
C'est ce qu'on comprend effectivement des résultats du sondage. Puis quand on s'en va au niveau public, on est à 55 % des gens qui ont répondu au sondage qui nous ont dit qu'ils avaient déjà vu ça.
Donc on parle d'entretiens qui sont reportés ou encore des entretiens d'édifices qui sont annulés tout simplement pour financer d'autres projets qui pourraient faire des belles conférences de presse.
C'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu ce qu'on entend. C'est ce qu'on appelle le fameux syndrome du ruban. C'est de choisir d'aller faire des nouvelles infrastructures au détriment de l'entretien de celles qu'on a déjà. Puis si je veux donner peut-être une image aux auditeurs et aux auditrices, ça serait comme si chez vous, par exemple, Monsieur Marceau, là, vous décidez de refaire votre cuisine avant de remplacer votre toit qui coule. Fait que là, vous avez une belle cuisine neuve, mais l'eau s'infiltre, éventuellement la moisissure s'installe, puis éventuellement... Est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au fait que le bâtiment est carrément plus bon? Ouais. Et ça va vous coûter de plus en plus cher parce que vous n'avez pas fait l'entretien bon moment.
Effectivement, c'est un bon point. Ça irait peut-être mieux dans ma vie amoureuse si je refaisais la cuisine versus le toit, mais je comprends qu'il faut passer par le toit.
Ça irait pas bien s'il y a de l'eau qui coule ses comptoirs et les ouilles.
Mais je comprends. Puis ça arrive beaucoup ça, dans le métier d'ingénieur, surtout ceux qui travaillent pour le gouvernement, des illogismes comme ça, c'est qu'on fait des trucs à l'intérieur pour justement montrer qu'on a fait quelque chose, mais au niveau de la toiture, exemple, il y a de l'infiltration d'eau, puis ça, ben, ça paraît peut-être un peu moins bien quand on fait des conférences de presse.
C'est probablement un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment ce qu'on a vu dans les sondages de la part de nos membres, où il y avait 34 % d'entre eux là, qui avaient déjà vu des recommandations techniques là, être discartées au profit d'autres genres de projets. Donc oui, c'est une réalité du terrain. Maintenant, il faut travailler là-dessus. C'est l'appel qu'on fait au gouvernement, donc d'investir moins dans les nouvelles infrastructures et d'entretenir celles qu'on a déjà. Quand on regarde le déficit de maintien actif, vous avez donné les chiffres, mais c'est pas d'hier. La majorité de nos infrastructures ont été construites dans les années 60, 70, puis souffrent d'un déficit de maintien actif depuis des années. Puis peut-être pour donner une définition là, du déficit de maintien actif, ce que ça veut dire, c'est combien ça nous coûterait en dollars pour ramener l'infrastructure à un niveau qui lui permettrait de rendre le service pour lequel elle a été construite. On n'est pas en train de faire du visuel. On est vraiment en train de remplir la mission pour laquelle elle a été construite. Quand la route, elle a des nids de poules, ben, elle rend pas le service pour lequel elle a été faite. On parle pas juste de la brique sur un hôpital qui tombe. On parle aussi de l'eau qui rentre puis qui, par exemple, dans certains cas, on peut annuler des chirurgies si jamais c'est le bloc opératoire qui est touché. Donc, il y a vraiment des impacts à ce déficit de maintien actif-là et on le voit beaucoup dans les nouvelles. Donc, on est face à une crise des infrastructures. Maintenant, faut agir. Faut agir sur comment on gère nos infrastructures en termes de gouvernance. Puis on a beaucoup d'attentes pour le budget d'aujourd'hui, notamment là, de faire moins de nouvelles infrastructures puis de faire davantage d'entretien de celles qu'on a déjà.
L'eau, c'est la vie, ça, on le sait, mais l'eau peut être extrêmement destructrice pour ce qui est de nos infrastructures. Dans un article de 2015, j'avais lu que Montréal perdait à chaque jour une quantité, Jeff, phénoménale d'eau potable.
Oui, donc, je me souviens de ça, tu m'en as parlé.
D'eau qui était traitée. À combien t'évalues, c'est en millions de litres, là, à combien t'évalues l'eau potable qu'on perdait en 2015 chaque jour?
En millions de litres?
Ouais, je te le donne en millions de litres.
Ouais, il me semble que c'est une affaire comme 80 millions de litres.
80 millions de litres. On n'est pas dedans pantoute, mon
cher. Non, c'est combien?
En 2015, c'était 500 millions de litres d'eau potable qu'on perdait par jour. Mais cette eau-là...
À cause que nos tuyaux sont pas assez étanches.
Les tuyaux fuient. Mais là, quand l'eau, elle sort du tuyau, elle fait un chemin. Puis elle se promène.
Elle fait un chemin dans nos infrastructures.
Elle veut trouver un autre endroit, puis elle emporte du matériel avec elle. Fait que ça travaille le sol comme pas possible. Fait que demandez-vous pas pourquoi ça brasse un peu partout au Québec pour ce qui est de nos routes, parce qu'on n'est pas capable de contrôler notre eau. Ça, c'était vrai en 2015 pour ce qui est de l'eau potable. Faut être très honnête, dans les dernières années, on perd de moins en moins d'eau à la ville de Montréal parce qu'on répare nos infrastructures. On avait encore des canalisations en bois à certains endroits.
On va en parler d'ailleurs tout à l'heure au salon des technologies de l'environnement. On a un panel sur les infrastructures en eau, puis le chiffre de 40 milliards que vous avez donné tantôt pour le déficit d'infrastructures, c'est pour égouts, aqueducs et les routes qui les recouvrent. C'est même pas l'ensemble des infrastructures dont les municipalités s'occupent. C'est un enjeu majeur, l'eau.
Est-ce qu'il y a possibilité de rattraper le temps perdu avec le déficit actuel et l'ampleur des réparations à faire?
Moi, je pense qu'on n'a pas le choix de croire qu'on peut rattraper ce déficit-là. Ça va prendre des stratégies, puis ça va prendre une vision à long terme aussi. Pour nous, c'est un enjeu qui est transpartisan parce qu'on va vouloir se poser la question, nos infrastructures, on s'en va où pour les 20-30 prochaines années, bien au-delà d'un mandat de 4 ans d'un seul gouvernement. Mais il faut agir maintenant si on veut commencer à adresser cette crise-là. Malgré l'argent qui a été mis dans les dernières années, vous l'avez dit, le déficit est passé de 20 milliards à 40 milliards au niveau des infrastructures provinciales. Il faut trouver un moyen, il faut changer nos façons de faire pour qu'on commence à résorber ce déficit-là. Ça, c'est super important. C'est important aussi que la population comprenne les choix difficiles vers lesquels on s'en va. Tu sais, quand on dit pas faire de nouvelles infrastructures, il y a des gens qui vont être déçus. Mais il faut entretenir celles qu'on a déjà si on veut léguer des infrastructures aux prochaines générations qui vont être fonctionnelles. Sinon, on n'y arrivera pas à passer par-dessus la crise. Donc, pour nous, c'est vraiment une mobilisation collective. Il faut que la population comprenne les enjeux. Il faut que nos élus prennent les décisions, changent les choses dans la manière dont on gère les infrastructures actuellement. Et ça va prendre une mobilisation de l'écosystème. Il va y avoir beaucoup de travaux à faire. Nos entrepreneurs, nos professionnels, nos donneurs d'ouvrages, tout le monde va devoir travailler en équipe si on veut résorber cette crise.
Donc, Jeff, toujours dans le sondage que les ingénieurs ont répondu là, sur l'inquiétude de nos ingénieurs par rapport à nos infrastructures, on a posé la question. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très préoccupé, combien de ceux sont préoccupés par l'état des autoroutes, des viaducs et des ponts? C'est 8,5.
Oui, ça, j'allais dire, chez les ingénieurs, j'allais dire 85-90%.
Établissement du réseau de la santé, 8,5. Les infrastructures municipales, en eau notamment, 8. Ah, les cégeps et universités, 7,8. Les barrages publics et municipaux, 7,5.
Cégep et université, il y a des locaux présentement qui sont fermés à raison de manque d'entretien. J'ai une question pour vous. Est-ce que le déficit au niveau des infrastructures des hôpitaux, c'est dû à la mauvaise gestion des directeurs et des directrices généraux des hôpitaux, comme Mme Sonia Bélanger, la ministre de la Santé, l'a dit?
Écoutez, moi, je veux pas rentrer là-dedans spécifiquement. Il y a un déficit de maintien actif au Québec dans les centres hospitaliers. On l'a vu, le vérificateur général du Québec est sorti en novembre dernier en disant en plus, le déficit qu'on a au dossier actuellement, il était sous-estimé. Donc, en février, on est ressorti avec des nouvelles estimations. Ça, écoutez, ça fait pas dans quelques années seulement. Là. Ça fait des années qu'il y a un déficit d'entretien de maintien actif. Ça peut être multifactoriel. Moi, je rentrerais pas dans pointer du doigt, c'est la faute à qui. Nous, on a choisi à l'ordre de ne pas pointer du doigt aucun gouvernement historiquement. On prend les faits là où ils sont maintenant, puis on trouve des solutions pour le futur. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce qu'il faut améliorer les choses, il faut se sortir de cette crise-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? On pourrait se poser un paquet de questions sur est-ce que les directions générales avaient les moyens. Il y a plein de choses qu'on peut aller voir dans l'historique. L'important, c'est de regarder comment on règle la crise maintenant. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut amener le discours.
Dernière question, Mme Larivière-Manteau. Je vais vous faire travailler un peu. Vous allez dire le petit maudit.
Allez-y.
Vous êtes présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Pourquoi on maltraite les lanceurs d'alerte? Des ingénieurs qui disent, moi, cette structure-là, pour la population, je la trouve dangereuse. Et ce lanceur d'alerte-là s'adresse à, je ne sais pas moi, à un journaliste qui, le lendemain, pond un article sur, je ne sais pas moi, le pont de Québec, tiens. Et là, on réussit à trouver c'est qui l'ingénieur qui a parlé, puis on y tape sur les doigts. Pourquoi on fait ça avec nos lanceurs d'alerte qui sont ingénieurs?
Écoutez, c'est une bonne question. Nous, à l'Ordre, on a des protections pour les lanceurs d'alerte. Ça fait plusieurs années. Ces gens-là peuvent appeler à l'Ordre pour avoir de l'information, pour savoir comment ils sont protégés quand ils lancent des alertes. Mais il faut pas oublier non plus que les ingénieurs ont une obligation aussi de dénoncer en fonction de leur obligation déontologique. Quand ils voient quelque chose qui est dangereux pour le public, ils doivent le signifier, que ce soit à leur employeur, que ce soit à l'autorité compétente ou peu importe. Il y a des obligations liées à ça aussi. Donc, je pourrais pas vous dire pourquoi on choisit de taper sur les doigts. Je connais pas toutes les situations précises de tout un chacun, mais sachez qu'il y a une protection pour les lanceurs d'alerte. Et s'ils ont des questions, là, ils peuvent définitivement appeler à l'ordre. Mais ils ont aussi cette obligation-là de le dire. Voilà.
Madame Larivière-Manta, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous.
Au revoir. Au revoir. Sophie Larivière-Manta, qui est présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. On parlait du déficit. Moi, les chiffres que j'avais vus en 2015, là... je m'étais levé le matin, puis là, je regardais l'article, un peu, là, l'eau potable, je veux dire, c'est quand même, c'est la source de la vie, l'eau potable. Ouais. Mais les villes travaillent extrêmement fort pour rendre cette eau potable-là, puis ensuite l'envoyer dans les canalisations pour que moi, je puisse ouvrir ma champlure pour avoir de l'eau qui a du sens. Le nombre de litres qu'on perdait à Montréal chaque jour, c'était 500 millions de litres. C'est l'équivalent à chaque jour de 200 piscines olympiques gaspillées. Puis moi, je suis un gars qui refait des maisons. OK, je m'achète des maisons, je refais. Quand ça donne, j'y revends. Je suis quelqu'un qui travaille. Puis j'ai appris très tôt que l'eau, c'est le pire ennemi pour une maison.
Ben oui.
C'est le pire ennemi pour tes infrastructures. Puis de voir que les hôpitaux comme ça, là, à Montréal, sont en train de fuir par le plafond. Puis de voir qu'encore à ce jour, dans nos, dans le sol où il y a nos routes, il y a de l'eau qui fuit partout puis qui emporte le matériel. Tu disais un peu, là, c'est... Pourquoi moi, je pense à ça? Puis le gouvernement, le politicien, lui, qui prend des décisions, là, il regarde les recommandations des ingénieurs. Ah, c'est parce que là, si je refais la toiture, ça, comme, c'est pas très sexy. Par contre, je pourrais refaire une unité avec cet argent-là qui va faire en sorte qu'il va y avoir des enfants autour de moi quand les caméras vont arriver. Puis là, moi, je suis un politicien bienveillant. Puis regardez, on refait l'unité de
natalité.
Moi, l'unité de natalité. Puis voyez comment je suis un politicien bienveillant. Puis là, les caméras. C'est parce que la toiture est importante.
Exactement. Hein? Puis le meilleur exemple, c'est là, au centre universitaire de l'Université de McGill. On leur fait une nouvelle pharmacie pour qu'elle soit plus pratique, qu'on soit plus productive, qu'on répond davantage à la clientèle. On est obligé d'en fermer une partie parce que le toit fuit. Donc, on a tout refait ça en 2025, elle est fermée.
Oui, puis dans d'autres hôpitaux, il y a une chute d'eau qui se crée à chaque fois qu'il pleut. Et là, on ne se pose plus la question comment colmater cette chute d'eau-là au plafond ou sur le toit. On se pose la question, on peut-tu mettre un tuyau pour faire passer ça dans le garde-robe? Fait que là, l'eau va tomber dans le garde-robe. Puis là, en bas, ça passe sous la cuisine. Fait que là, on va twister le tuyau pour le faire passer par la fenêtre, puis on va faire sortir l'eau par la fenêtre. On est en 2026, là. C'est la première fois de notre vie qu'on est surtaxé autant, que le coût de la vie est aussi élevé. Je parle de notre vie à nous, là. Je ne retourne pas dans le passé, là. Puis qu'il y a de l'incertitude économique comme ça, là. L'inflation va augmenter, puis on vient qu'on ne voit pas le bout de tout.
Exactement.
À un moment donné, ça va prendre une Margaret Thatcher. Quelle femme!
En effet, t'as entièrement raison, mais...
Il y a des décisions qui allaient à l'encontre de ce qu'on lui conseillait pour se faire réélire, puis elle a sorti le Royaume-Uni du marasme économique dans lequel il était. On n'aura pas le choix d'avoir quelqu'un de même à un moment donné.
C'est ça, mais est-ce que ça va arriver au Québec avec la force syndicale?
So, solidarité, surtout quand ça fait notre affaire. 9h23, on vient.
Pour nous informer de ce qui se passe dans